Bonsoir et bienvenue au journal en français du studio Kalangou. Au micro, je suis Rafika Taher. À la une ce 4 septembre 2024, les pluies enregistrées en début de semaine à Agadez et Zender ont causé d'importants dégâts. La grande mosquée et Miskini, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est menacée selon le gouverneur de la région d'Agadez. Les sinistrés des inondations de Maradi installés dans les écoles seront relogés sur un site en cours d'aménagement. Des détails dans ce journal. La partie magazine s'intéresse aujourd'hui à la production d'aliments bétail par une fédération féminine de la commune de Dogonkiria de la région de Dosso. Mais d'abord, le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zen participe au 9e forum Chine-Afrique qui débute aujourd'hui à Pékin. Il se tiendra du 4 au 6 septembre prochain avec la participation de dizaines de dirigeants et délégations africaines. Au cours de cette rencontre, les deux parties vont tenir des échanges sur la coopération dans le domaine clé tel que les infrastructures, l'éducation, la santé, la sécurité, la technologie, les médias et l'industrie. La Chine, deuxième économie mondiale, est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Ce sommet se tient tous les trois ans alternativement en Chine et sur le continent africain. Ce matin, le gouverneur de la région d'Agadez a fait le déplacement sur place pour constater les dégâts causés par les pluies tombées hier et avant-hier. La grande mosquée d'Agadez et Miskini et l'aéroport sont également touchés. Le général de brigade Ibra Boulama Issa nous en dit plus au micro de Moussa Maman.
Nous avons constaté malheureusement qu'il y a 48 maisons qui sont effondrées. Nous dénombrons également beaucoup de murs qui sont effondrés et des cours d'école qui sont complètement inondés. Nous ne déplorons qu'un blessé grave et quelques blessés légers. Nous avons encore insisté pour que les consignes de sécurité soient respectées, pour que toutes les maisons qui sont à risque puissent être abandonnées, en tout cas que les personnes quittent ces maisons-là. Et également, nous sommes passés au niveau de la grande mosquée et Miskini, où nous avons constaté une inondation à ce niveau-là qui nécessite certainement des mesures de renforcement. Et au niveau de l'aéroport, nous avons des menaces même sur le trafic aérien. Donc à ce niveau également, nous sommes en train de prendre des dispositions pour que l'eau soit évacuée le plus rapidement possible afin de rétablir le trafic au plus tard en début d'après-midi. Je pense qu'en plus de tout cela, il faudrait dire que ces pluies exceptionnelles ne sont pas limitées au niveau de la ville d'Agadez. Nous les avons notées, je dirais, dans tous les départements de la région d'Agadez.
Par ailleurs, à Zender, un des patrimoines du Damagaram, la plus vieille mosquée du sultanat, construite en 1809 par le sultan Tanimoun, s'est effondrée hier, conséquence des précipitations enregistrées hier. La mosquée a subi l'année dernière des travaux de réhabilitation, mais mal exécutés selon Lawale Halilou, directeur régional du tourisme. Il explique au micro de Ali Kaita.
C'est une perte pour la région des Zender en particulier et en général pour le Niger parce que cette vieille mosquée fait partie des patrimoines culturels de la région et fait partie des lieux de pèlerinage touristique au niveau de la région parce que à chaque fois qu'il y a des visites au niveau du sultanat plutôt, il y a toujours une visite guidée au niveau de cette mosquée. Cette mosquée, sa disparition est une perte. Une partie de notre histoire du Damagaram vient de tomber. Aussitôt, l'alerte donné, nous avions touché l'entrepreneur chargé de la réhabilitation de la mosquée qui s'est engagé. Il avait commencé les premiers travaux dans le cadre de renforcer, mais malheureusement, les pluies qu'on enregistre chaque jour ne peuvent pas lui permettre de continuer les travaux. Il nous a notifié la nécessité de laisser les travaux juste après la période hivernale.
Quant à Maradi, un site est en train d'être aménagé par la ville pour reloger les victimes des inondations installées dans les écoles. Selon le capitaine Ganda Abdelaziz, le directeur régional de la protection civile, environ 200 tentes et des kits alimentaires sont déjà là pour la prise en charge des familles sinistrées. Plus de détails au micro de Mohamed Maman.
On a déjà aménagé un site de relocalisation de ces sinistrés. L'installation des tentes a commencé depuis hier soir. En attendant la finition du site, on a commencé déjà à déployer des vivres au niveau de ces ménages, au niveau des maisons et également ceux qui sont dans les écoles. On va d'abord partir sur la base des moyens que l'État a mis à notre disposition, qui est à hauteur de 196 tentes, 1000 kits de nourriture. C'est des kits qui sont composés de riz, de l'huile, du sucre et d'autres ingrédients. On va installer les 195 tentes. Au fur et à mesure, avec les partenaires, on va encore redéployer d'autres moyens. Actuellement, on a 160 tentes disponibles à l'Opoven qui sera mise au profit de ces sinistrés. Chaque goutte de pluie qui tombe, ça nous inquiète vu la fragilité des maisons existantes.
À Niamey, parmi les personnes impactées par les inondations, on compte celles en situation de handicap. Selon Habib Abdallah, président de la section régionale de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, un recensement est en cours pour identifier ceux qui sont touchés par le sinistre. Il fait le point de la situation au micro de Zainab Traoré.
Présentement, nous sommes en train de toucher tous nos représentants de nos communes. Et on nous a fait cadre à peu près d'une dizaine de personnes handicapées qui ont été touchées. Par exemple, les quartiers Bokoki, j'avais eu jusqu'à 4 qui ont été sinistrés. Il y a 2 qui ont perdu leur maison. Saga, il y a eu 2 qui nous ont touchés. Il y a eu encore Haroban de rive droite, plus précisément à Nyalga. Là encore, nous avons eu à peu près 3. Donc, on n'a pas encore finalisé la liste. Nous sommes en cours de finaliser, Inch'Allah. Pour le moment, nous avons des aides que l'État est en train de faire à prix modéré. Donc vraiment, aux gens qui ont les moyens vraiment de contribuer, d'amener leur contribution pour aider l'État.
Le manque de gaz persiste depuis quelques jours au niveau de certains points de vente de la ville de Niamey. Face à cela, nous avons rencontré le secrétaire général de l'Association des revendeurs de gaz à Niamey, Moumouni Idi. Il explique la situation au micro de Omer Dawi.
Je dirais que c'est pas une pénurie, mais une insuffisance de livraison des gaz ici à Niamey. Cela s'explique par la manifestation qui a eu lieu au niveau du Nigeria. Pour satisfaire les 104 centres, là, il faut une production vraiment considérable. Les citernes qui sont obtenues au niveau de la Soraz, avec les précipitations qui ont coupé les voies de communication, donc ça a pris une autre ampleur au niveau du Niamey. Vraiment, nous, on n'a pas été contactés. Et nous n'avons pas contacté les autorités par rapport à cette situation. Parce que pour nous, vraiment, c'était provisoire. Comme chaque année, il y a ce genre de situation qui arrive. Ça ne prend pas grand temps pour rentrer dans l'ordre. Donc voilà pourquoi on n'a pas approché vraiment le ministère du pétrole ou bien la SONIDEP.
Après 3 mois de vacances, les étudiants ont repris le chemin de la fac. La reprise des cours a été effectuée hier à l'université de Diffa. Le point avec Dr Abdullah Wali, doyen de la faculté des sciences agronomiques et écologiques au micro de Mani Moussa.
Et nous avons environ 800 étudiants, dont 500 à l'institut, un peu plus de 300 à la faculté. Pour les nouveaux inscrits, cette année, nous avons continué dans l'innovation. On a permis au niveau de notre site web et nous avons enregistré 512 candidatures. Nous sommes en train de faire le dépouillement et la liste sera affichée très bientôt pour permettre à ces nouveaux bacheliers-là de venir physiquement s'inscrire. C'est grâce aux efforts de toutes les composantes de cette université qui jouent leur rôle que nous sommes presque toujours en avance. Nous arrivons à finir notre programme dans le temps imparti. Et c'est grâce à cette compréhension qu'il y a entre les étudiants, les PAT et les enseignants.
De la région de Diffa, le département de Bosso fait face à une insécurité depuis plusieurs années. Cette situation a entravé les activités sanitaires, notamment le programme de vaccination. Le médecin-chef du district sanitaire de Bosso, Dr Sina Abdrahman, explique l'impact sur leur travail au micro du Maman Idrissa.
L'insécurité a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de déplacés et de réfugiés. Et donc ces déplacés et ces réfugiés-là sont venus augmenter notre cible. Donc ce qui fait qu'on a du mal à atteindre certains objectifs. Parce que les intrants qu'on nous donne sont vraiment calculés en fonction de la population autochtone. Donc là, on a du mal à gérer cette population-là qui est venue se greffer au niveau du département de Bosso. Ce qui fait qu'on a des couvertures de 105, 110, 120%. Mais avec l'appui de certains ONG, on a l'habitude d'organiser des cliniques mobile, c'est-à-dire pour aller vers ces populations-là. Maintenant, avec l'appui aussi des autorités, on a des fois des escortes, c'est-à-dire des FDS qui nous accompagnent au niveau des endroits qui sont un peu insécurs. Mais il y a d'autres zones d'accès difficiles qu'on n'arrive toujours pas à toucher.
La direction départementale de la police nationale de Gaya a réalisé un coup de filet majeur durant le mois d'août passé. Des quantités significatives de substances illicites ont été saisies et deux réseaux de trafic international de drogue à haut risque démantelés. Des précisions avec le commandant Moussa Saleh, préfet de Gaya, au micro de Fadel Alou.
Depuis la fermeture des eaux du fleuve par les autorités béninoises, les entrées et les sorties entre les deux pays se font de manière clandestine, situation que les trafiquants mettent à profit pour intensifier leur activité. Ainsi, du 1er au 28 août 2024, 14 291 comprimés de tramadol, 6,78 kg de cannabis, 334,34 g de crack, 71,44 g d'héroïne, 250 comprimés de diapason, 33 comprimés d'exol, 25 personnes interpellées. À toutes ces quantités s'ajoutent celles-ci opérées le 29 août 2024 qui s'élèvent à 25 000 comprimés de tramadol.
Les femmes venues de certains villages de la commune de Dogonkiria, région de Dosso, produisent de l'aliment bétail avec les fruits de certaines espèces. Elles transforment également d'autres dérivés de plantes. Pour plus de détails, notre correspondant à Dogondouchi, Abdelaziz Dayouma, s'est entretenu avec Fadima Wakasso, membre de cette fédération féminine en magazine.
À Dogonkiria, les femmes ont mis en avant la production d'aliments bétail à base de certains fruits d'arbres forestiers. Ce sont des produits non lignés comme les pulostigma réticulants appelés kosé en zarma, kalgo en hausa et les gao acacia albida qui sont les matières premières de leurs activités. Fadima Wakasso, membre de la fédération féminine, explique.
Nous transformons les graines du pulostigma réticulum et du gao qu'on associe aux feuilles d'un arbre qu'on appelle kamachi. On mélange le tout avec les tiges de mil et on passe au moulin pour avoir une farine pour aliments bétail. Nous transformons aussi les graines de balanites pour extraire de l'huile que nous vendons le litre à 5000 francs. Ensuite, nous pilons la pâte. Une fois séchée, nous la passons au moulin. Plus tard, nous mélangeons la farine avec quelques ingrédients pour faire du savon qui soigne les dermatoses et qui rend la peau lisse et satinée. Les jeunes nous appellent de partout pour commander le savon, car ils l'apprécient beaucoup. Il y a des personnes qui achètent pour 4 000, voire 5 000 francs.
Alhamdulillah. Selon Fadima, ils déploient tous les moyens pour faire connaître leur savoir-faire dans les autres régions du pays.
Avant d'amener les produits sur le marché, nous avons d'abord visité plusieurs localités, dont Dogondouchi et Niamey, pour chercher des partenaires. Ensuite, nous avons envoyé une partie de son au service de l'élevage de Douchi et au marché de Katako à Niamey. Dieu merci, on n'a aucune difficulté pour recevoir notre argent, car les produits se vendaient sur le champ.
Les produits issus de leur transformation sont appréciés et bien accueillis sur les marchés, ajoute Fadima.
On a gagné beaucoup de bénéfices, car avant, on ne sait pas comment ça se passe. Mais présentement, nous sommes bien édifiés. Nous vendons nos produits sur place. Quand notre machine est tombée en panne, on s'est servi des bénéfices pour payer un nouveau moteur. Notre fédération dispose d'une somme de 500 000 francs dans son compte. C'est avec cet argent qu'on tourne. On n'a plus besoin de tendre la main à quelqu'un.
Les femmes de la fédération de Dogonkiria sont fières de leurs activités puisque cela leur procure une indépendance financière.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada. Et
Studio Kalangu au rythme du Niger.
Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.